le magazine des Nations Unies.
Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. Déclaration de la directrice générale de l'UNESCO citant René Cassin, l'un des artisans de la déclaration de droits de l'homme. C'était à l'occasion de la journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année. Dans ce magazine, le représentant de l'UNESCO en RDC explicite le fond de cette pensée. À propos de droits de l'homme, justement, en République démocratique du Congo, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme note une augmentation importante de leurs violations à quelques mois des scrutins. Et c'est le directeur de cet organe, de la MONUSCO, qui l'a affirmé mercredi 19 septembre 2018 à Kinshasa. Enfin, lutter contre le travail des enfants dans les mines artisanales en République démocratique du Congo, un atelier de renforcement des capacités techniques a été organisé à cet effet à Kinshasa avec l'appui de l'Organisation internationale du travail, OIT. Dans cette édition, Roger Nkambu Mavinga sera notre invité. Et voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bon dimanche chez vous. Comme dit dans le sommaire, le 21 septembre, le monde célèbre la journée internationale de la paix. À cette occasion, Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, a adressé au monde un message. Message dans lequel, citant René Cassin, l'un des artisans de la déclaration des droits de l'homme, elle a dit « Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. » Une pensée que le représentant de l'UNESCO en RDC a explicitée en émettant le vœu de voir le processus électoral en cours dans ce pays se déroulait dans la paix. Les propos du représentant de l'UNESCO, Dr Diallo, au micro d'Honoré Missenga Kalala.
Et cette citation de René Cassin, en fait, s'inscrit tout à fait dans le prolongement du paradigme de la construction de la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. C'est un idéal que l'UNESCO prône et qui est inscrit dans le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut contribuer à élever les défenses de la paix. Et cette paix, au titre de ces défenses de la paix, vous avez les droits de l'homme. Les droits de l'homme constituent le pilier central. Cette situation nous rappelle ainsi que la paix reste un idéal irréaliste tant que les droits humains ne sont pas respectés. Il reste la condition primordiale pour une société pacifiée où chacun doit être reconnu dans sa dignité et pour jouir pleinement des droits égaux. Donc, il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés et l'UNESCO et ses États membres se sont engagés à assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En République démocratique du Congo, nous savons que la nation est engagée dans un processus électoral très important, historique. Et notre souhait, c'est que les élections se déroulent dans un climat de paix et surtout sur la base de valeurs et d'orientations harmonisées, du respect des droits de l'homme, de la culture de la paix, d'une citoyenneté républicaine et de la démocratie. Et notre invitation aussi à l'ensemble de nos partenaires pour s'engager concrètement pour la culture de la paix. C'est ainsi que nous allons d'ailleurs accompagner le lancement d'une campagne engagée sur la paix que le réseau des jeunes pour la culture de la paix de la RDC va lancer. Et nous allons multiplier ce type d'initiative avec d'autres réseaux de l'UNESCO, avec les clubs UNESCO, les écoles associées de l'UNESCO pour qu'elles s'engagent également dans des initiatives pour la promotion de la culture de la paix.
Restons dans ce volet des droits de l'homme, selon le bureau conjoint des droits de l'homme de la MONUSCO BCNUDH, le nombre des agents étatiques responsables des violations de droits de l'homme en RDC au mois d'août dernier aurait quasiment doublé, dépassant ainsi celui des groupes armés auteurs des atteintes aux droits de l'homme au cours de la même période. Le directeur du BCNUDH, Abdulaziz Thioy, l'a souligné au cours de la conférence des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Suivez plutôt, monsieur Abdulaziz Thioy, au micro de Jean-Pierre Elali, Ikoko.
Ce qu'il faut retenir pour ce mois d'août 2018, c'est une augmentation générale du nombre de violations des droits de l'homme. Le bureau conjoint a documenté 620 violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire, soit une hausse par rapport à juillet 2015, où nous avions enregistré 515 violations des droits de l'homme. Alors que le nombre de violations commises par des agents de l'État a presque doublé en août par rapport au mois de juillet, une baisse du nombre d'atteintes attribuables aux groupes armés a été documentée pour ce mois-ci. Alors qu'en juillet, la proportion entre les violations perpétrées sur l'ensemble l'ensemble du territoire de la RDC par les agents de l'État et les atteintes par les groupes armés étaient quasi identiques, 50% chacun. Ce mois-ci, les agents de l'État sont responsables de près de 66% des violations sur l'ensemble du pays, dont l'exécution extrajudiciaire d'au moins 24 personnes, tandis que les groupes armés ont commis 34% des atteintes, dont l'exécution sommaire d'au moins 56 personnes. De toutes les parties au conflit, les militaires des FRDC sont les principaux responsables des violations des droits de l'homme, 32%, tandis que les combattants des FRPI sont parmi les groupes armés qui sont considérés comme les principaux auteurs du côté des groupes armés, 9%.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une cinquantaine d'agents équerrants de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, ont suivi à Kinshasa du 18 au 20 septembre une formation des formateurs en observation électorale avec l'appui technique et financier du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et CNIDH. Selon le président de cette institution d'appui à la démocratie, la CNDH se prépare à faire l'observation à chaque étape du processus électoral en cours en RDC. Mwamba Mushikonki Mwamus a répondu aux questions d'Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, bonjour.
Bonjour.
3 jours de formation sur l'observation électorale pour vos agents et cadres. En d'autres termes, la CNDH se prépare à observer le reste du processus électoral en RDC.
Oui, bon, pas pour le reste, hein. On est déjà dans l'observation. Nous avons commencé avec l'enrôlement des électeurs et on a observé les dépôts de candidatures. Et on a observé aussi les contentieux électoraux par rapport aux contentieux des candidatures. Et maintenant, à chaque étape, on a une formation appropriée pour qu'on puisse observer en connaissance des causes. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons associé nos amis de province. Donc, il y a la présence des coordonnateurs et coordonnateurs adjoints et chefs d'antenne des différentes provinces. On a pris les formats des anciennes provinces. Ils sont là et nous sommes à plus ou moins 50 personnes conformes comme formateurs. Ces derniers ont l'obligation de faire la restitution et de former les observateurs des élections dans des provinces afin d'observer pas seulement les scrutins du 23 décembre, mais aussi observer la campagne électorale.
Observation électorale, est-ce que la CNDH a les moyens, c'est-à-dire les ressources humaines, techniques, logistiques et financières qu'il faut?
Oui, par rapport aux ressources humaines, je vous parle de 50 personnes comme formateurs, c'est déjà un grand pas. Et aussi, dans le cadre de la collaboration et de l'accompagnement des organisations de la société civile, nous allons aussi former parmi les membres de la société civile comme observateurs qui vont travailler et faire rapport à la CNDH. Et puis aussi, nous avons nos délégués ou nos représentants. Pour le moment, dans chaque province, nous avons au moins une équipe de 5 qui fonctionne dans les chefs-lieux des nouvelles provinces. Donc c'est déjà un atout pour observer les élections. Mais néanmoins, nous allons beaucoup plus collaborer avec les organisations de la société civile. Par rapport aux moyens financiers, nous sommes une institution de l'État qui émerge au budget de l'État. Nous avons notre ligne budgétaire propre. C'est question seulement de sensibiliser les ministères du budget et des finances pour que la part de la CNDH concernant cette activité soit débloquée dans un bref délai afin d'organiser cette activité. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons aussi d'autres partenaires qui viennent en aide à la CNDH et nous comptons sur ces deux partenaires, donc l'État congolais qui est le premier partenaire de la CNDH et aussi les autres partenaires techniques et financiers.
Vous avez déjà observé les étapes précédentes de ce processus, notamment l'enrôlement des électeurs, le dépôt des candidatures et les contentieux. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette observation?
Par rapport à l'enrôlement, on avait soulevé certaines violations liées aux personnes avec handicap. Nous avons vu que la CENI n'avait pas mis à la disposition des personnes avec handicap les interprètes. Et aussi, dans d'autres bureaux, en étage d'enrôlement, il y a eu des difficultés par rapport aux personnes à mobilité réduite. Il y a eu aussi les cas pour les malentendants et malvoyants qui ont connu des difficultés. Mais il y a eu aussi des condamnés sans privation de droits civils et politiques qui se sont pas vus être enrôlés et les prisons étaient dans d'autres provinces oubliées. Mais quand nous avons formé des recommandations, nous avons vu une amélioration au niveau de Kinshasa. Là, l'équipe de la CENI est descendue à Makala pour enrôler les détenus et d'autres condamnés qui n'ont pas fait l'objet de privations de droits politiques. Mais aussi par rapport à l'observation des dépôts de candidature, nous avons vu que certaines directives de la CENI ont été violées, surtout à ce qui concerne le respect de la distance. Et aussi, nous avons vu que les dépôts de candidature s'est transformé en campagne électorale, et c'est ce qui a fait que, à un moment donné, il n'y a pas eu d'encadrement des militants qui accompagnaient les candidats, et ça a abouti à des violences. On a dispersé les gens. Alors tout ça, nous avons documenté et nous avons fait rapport pour que prochainement que cette situation soit améliorée.
Monsieur le Président, vous avez dit qu'en dehors du gouvernement, vous avez d'autres partenaires. L'un des partenaires, c'est le Bureau conjoint des Nations Unies. Et concernant votre implication dans l'accompagnement du processus électoral, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce partenariat?
Nous, notre partenariat, nous le souhaitons que ce soit fondé sur le respect mutuel. Donc c'est un partenariat entre une institution de l'État et une organisation des Nations Unies, donc une structure des Nations Unies. Alors nous voulons que ces partenariats continuent dans le respect mutuel et aussi qu'on tienne compte de nos programmes, parce que nous voulons élargir ce programme dans les provinces. Alors tout ce que nous allons définir ensemble doit avoir une conclusion nette ensemble et aussi doit refléter l'image de consensus. C'est ça notre souhait et nous voulons que ce partenariat continue, bien sûr, dans le respect mutuel et dans le consensus, dans la mise en œuvre des programmes arrêtés.
Vous venez de le dire, Monsieur le Président, la CNDH, c'est une structure étatique indépendante. Elle n'est donc pas une ONG, elle n'est pas non plus une association de la société civile. Comment vous vous démarquez pour agir vraiment dans toute indépendance par rapport aux éventuelles pressions des uns et des autres?
Oui, c'est parce que nous tenons compte de notre loi. La loi est claire en cette matière, nous sommes une institution indépendante et nous sommes soumises qu'à l'autorité de la loi. Et c'est ce qu'on applique et c'est ce qui fait même la force de la CNDH. Depuis qu'on est installé, nous n'avons jamais eu de cas d'injonction, ni de la communauté internationale, ni de l'État congolais, ni de la société civile. Donc nous travaillons en tenant compte de la loi et en respectant notre serment, parce que comme vous le savez, les 9 membres, avant d'entrer en fonction, ils avaient prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Donc notre serment est respecté et même notre loi.
Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Radio Capi, vous remercie.
Merci.
En plus bref, la coordinatrice régionale pour les réfugiés burundais, Madame Catherine Wiesmer, a effectué du 17 au 21 septembre 2018 une visite dans la province du Sud Kivu. Objet de la visite, discuter avec les autorités congolaises et d'autres partenaires sur la situation de plus de 46 000 réfugiés burundais résidant en RDC. Madame Wiesmer s'est rendue dans les sites d'installation des réfugiés et les centres de transit où sont bloqués 1 300 réfugiés. Justice internationale, deuxième affaire de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Les juges de la chambre de première instance 7 a rendu sa décision. Cette décision condamne Jean-Pierre Bemba à 12 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 300 000 euros. Les co-accusés Kilolo et Manguinda ont été eux aussi condamnés à une peine totale de 11 mois d'emprisonnement. Mais ce Kilolo a lui aussi reçu une amende de 300 000 euros. La chambre a ordonné que soient déduites ces peines le temps déjà passé en détention sur ordre de la Cour et a, par conséquent, considéré que les peines d'emprisonnement avaient été purgées. Les amendes seront aversées à la Cour dans un délai de 3 mois à compter de la décision et seront ensuite transférées au fonds au profit des victimes. Enfin, nouvelle de la MONUSCO, la représentante spéciale en RDC, Mme Leila Zerougui, participera à l'Assemblée générale des Nations Unies. En attendant ce rendez-vous de New York, son adjoint David Gracie, en charge des opérations et de l'état de droit, a effectué mardi dernier une visite de travail à Minembwe, au Sud Kivu. Il était accompagné du gouverneur de province et de quelques membres du Conseil provincial de sécurité. C'était une courte visite dont les buts principaux étaient de lancer le projet d'un système d'éclairage solaire au marché Kiziba.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La ville de Kinshasa a abrité vendredi 21 septembre un atelier de renforcement des capacités techniques des membres sectoriels en vue de lutter contre le travail des enfants dans les mines artisanales en RDC. Ce forum d'une journée a été placé sous les auspices de l'Organisation internationale du travail, OIT. L'administrateur général en charge des programmes de cet organisme parle des zones affectées par ce fléau et explique comment on en est arrivé là. Roger Kambou répond aux questions de Pascal Massirica.
Monsieur Roger Kambou, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous, sur base de quel constat s'est tenu l'atelier de Kinshasa ?
L'atelier ici vise le renforcement des capacités techniques des membres du comité sectoriel de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales de la RDC. Pourquoi cette formation ? C'est simplement parce qu'il faut renforcer les capacités de ces membres-là et susciter le besoin d'avoir deux partenariats parce que le travail des enfants est un fléau qu'il faut à tout prix éradiquer ensemble avec tous les partenaires.
Quelles sont les provinces de la RDC qui sont les plus affectées par ce fléau et pourquoi en est-on arrivé là ?
C'est toutes les provinces de la RDC qui sont concernées. Mais par rapport aux enfants qui travaillent dans les mines, c'est plus le province de l'Est et surtout les alentours de Kolwezi. Parce que avec le renchérissement de la valeur minière liée au cobalt, liée à certains types de minerais qui sont recherchés sur les plans internationaux avec la fabrication de batteries, avec les multinationales qui fabriquent des véhicules sans batterie et tout ça, ça fait en sorte qu'il y a une certaine ruée qui est portée vers les minerais pour avoir des bénéfices. Et ce qui explique cela, il y a plusieurs raisons. C'est la pauvreté des familles, c'est la famine, c'est l'insécurité, c'est l'instabilité, c'est les déficits éducationnels.
Vous venez avoir une idée globale sur les tâches prohibées pour les enfants ?
Toute tâche qui astreint l'enfant à jouir de son enfance, à aller à l'école, rentre dans le cadre des pires formes de travail des enfants. Toute tâche qui nuit à la santé, à l'éducation, au développement intégral de l'enfant, c'est une pire forme de travail des enfants.
Est-ce que vous avez mis en place des mécanismes pour abolir les travaux forcés qui sont infligés aux enfants en RDC ?
Nous sommes là comme un conseiller du gouvernement. Nous avons la particularité d'être une organisation tripartite. Nous avons à la fois les organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que les gouvernements. Les conventions sont adoptées au niveau de la conférence internationale par les États et chaque État doit les ratifier. Mais du fait d'être membre de l'OIT, qu'on ait ratifié ou pas, on doit observer dans les politiques nationales ce qui est charrié par les conventions internationales. Et pour le cas de la RDC, il y a deux conventions qui traitent de ces formes de travail. C'est la convention 29 et la convention 105 sur le travail forcé.
Quelle chance de succès vous accordez aux résultats issus de cet atelier ?
Les résultats de cet atelier, c'est-à-dire qu'on commence à s'aimer. Quelqu'un qui jette une graine dans la terre doit attendre que la graine germe pour produire des fleurs, ensuite des fruits. Donc c'est une première action qui rentre dans le chapelet d'actions qui seront initiées en relation avec les ministères des mines et les ministères d'État, l'emploi, travail, prévention sociale et d'autres encore. Mais celui qui investit dans les ressources humaines s'enrichit. Voilà, notre stratégie vise d'abord à renforcer les capacités pour que nous puissions nous former une masse critique qui fera en sorte que cette masse puisse s'approprier de la stratégie et des dynamiques et des instruments pour pouvoir sensibiliser les autres. Parce qu'il vaudrait mieux prévenir que guérir. La prévention est meilleure par rapport à tout ce qu'on peut apporter comme remède curatif.
Monsieur Roger, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Séance mouvementée lundi au tribunal militaire garnison de Kananga où sont jugées les personnes accusées d'avoir participé au meurtre de deux experts de l'ONU tués en mars 2017 au village Moyomusuila au Kasai. Le prévenu Ilunga Lumu, considéré comme l'un des principaux acteurs dans ce dossier, a pris la parole pour relater l'exécution des experts. Suivez les explications de Joël Bofingo.
Jusqu'ici, Ilunga Lumu avait nié toute participation au meurtre des experts de l'ONU. Tout ce que j'avais dit avant, j'avais menti, concède aujourd'hui celui que l'on surnomme Bogar. Sur demande de son avocat, Maître Trésor Kabango, le prévenu prend la parole pendant environ 2 heures. Il relate son baptême dans les tuyaux du chef Boula Boula, un baptême forcé, nuance-t-il. Puis il en vient à cette journée du 12 mars 2017 où il se serait rendu à l'église de la matinée. Vers 14 heures, relate le prévenu, il aurait été informé de l'arrivée des Blancs dans la concession de Boula Boula. Arrivé là, il a entendu Boula Boula demander à Vincent Manga pourquoi les deux experts avaient été arrêtés. Manga et un autre milicien auraient répondu avoir reçu un message de Kananga disant que les deux Blancs, venait incendier les territoires des Dibaya. C'est alors que Boulaboula aurait ordonné qu'on exécute les deux experts. Selon le récit d'Ilungalumu, Jean Bosco Mukanda, principal témoin dans cette affaire, était présent sur le lieu du crime. C'est même lui qui aurait remis aux miliciens les cartouches pour exécuter les experts. Les prévenus Ilunga accusent également Mukanda de lui avoir ordonné de couper les cheveux sur la tête des Aïda Catalane. Mais il nie avoir transporté la tête de l'expert après la décapitation. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
On revient encore ce dimanche sur la question relative à l'enquête sur l'assassinat de deux experts de l'ONU tués en mars 2017 au Kasaï. Et c'est le procureur canadien Robert Petit qui répond.
C'est Jean-Pierre Elali des Radio Kapi. Ma question s'adresse à Robert Petit. Vous êtes une équipe, vous venez de Kananga. Vous avez dit que vous apportez un appui conseil à la justice congolaise. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont les avancées de l'enquête que vous avez constatées dans les chefs de la justice congolaise et ce que vous faites exactement dans votre conseil?
Vous comprendrez, j'espère, que je ne commenterai pas les faits spécifiques à l'enquête. Ce n'est certainement pas dans les bonnes pratiques de commenter en public les faits d'une enquête. Là où la preuve se déroule en public, c'est lors du procès. Et c'est là qu'on peut connaître la preuve telle qu'elle a été collectée pendant l'enquête. Donc, je ne commenterai pas spécifiquement les faits de l'enquête. Ce que je peux dire, c'est que, effectivement, depuis l'année dernière, nous avons tenté d'appuyer du meilleur de nos possibilités cette enquête. Vous avez raison de dire que ça fait déjà plus d'un an que toutes les familles, les 6 familles, ont le droit de s'attendre à que la vérité soit établie le plus rapidement possible. Et c'est ce que nous allons essayer de faire et d'aider la justice congolaise à faire dans les meilleurs délais. Le procès lui-même a repris. Donc, il y a une audience, il y a des audiences qui vont se continuer où la preuve qui a été accumulée pendant l'enquête va être présentée à la Cour. Et ce sera là le forum où ces faits-là pourront être discutés.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je suis Kabamba Mwanza Doudou Serge, père de famille, marié. J'ai fait mes études maternelles, primaires et secondaires ici à Kinshasa, à l'école paroissiale Mukasa d'abord. Et ensuite à l'école paroissiale Bossalissani, dans la commune d'Engalema, ici à Kinshasa. Je suis licencié en fiscalité, gradué en comptabilité de l'Institut supérieur de commerce, toujours à Kinshasa. Je suis ici à la MONUSCO depuis 2006, alors MONUC. Et je suis ici comme assistant aux finances. À mon recrutement en 2006 jusqu'en 2008, je m'occupais du traitement de FTN Claim. Et après ces brefs séjours au niveau du traitement de FTN Claim, j'ai été convié à occuper les postes toujours d'assistant aux finances, mais cette fois-là à la trésorerie, où je suis jusqu'à aujourd'hui. Et chaque matin quand je viens à mon travail, je me prépare, c'est déjà à partir de 8h30 que je suis au bureau, bien que mon bureau est ouvert à partir de 9h aux visiteurs, je me prépare pour préparer le paiement à la fois des staff MONUSCO, mais aussi des particuliers qui traitent avec la MONUSCO. Et je fais la liaison entre la MONUSCO et les banques. Les banques ici en national comme les banques au niveau étranger. Et donc, c'est ce que je fais chaque matin. Mais avant de venir à la MONUSCO, j'ai été comptable fiscal au groupe Mino Congo. Et je m'occupais particulièrement de la société Transgazel, qui est une société de transport routier, qui fait Kinshasa-Matadi. Et avant cela aussi, j'ai travaillé par deux fois dans des cabinets ministériels. Et donc, j'ai travaillé avec Feu, Son Excellence, Monsieur Eleko, au ministère de l'Énergie. Et ensuite, j'ai travaillé avec le professeur Banyaku au vice-ministère de la distribution et commercialisation des produits pétroliers. Et j'aime bien le légume, j'aime bien le poisson avec le foufou. Je suis amateur du football
supporters de l'AS Vita Club et de Barcelone. Je pratiquais les judos et les karatés. J'aime les gospel music, les loisirs, j'aime être au stade et j'aime bien me divertir avec la lecture. Voilà tout ce que j'ai fait. Donc comme ici sur place il n'y a pas de cinéma, et voilà, je ne sais pas trop aller au cinéma. Sinon, en tant que financier de formation et de profession, je rêve de devenir financièrement indépendant en créant un système qui pourra me faire gagner des revenus passifs, de sorte que je m'occupe des nécessités. Voilà un peu mon projet. Merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Quelques rendez-vous à noter dans vos calepins. Le 26 septembre, c'est la journée mondiale du cœur. Alors faites attention à vos petits cœurs, hein, ils sont précieux. Et cela au propre comme au figuré. Le 27 septembre, ce sera la journée internationale de mobilisation contre la guerre et les occupations. Et le 28 septembre, c'est la journée mondiale de la rage. Voilà, c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Alain Goy. Honoré Missinga Kalala était au reportage et à la réalisation. Jean-Pierre Lalicoco au reportage également et à la coordination sous la supervision de Martin Sibujangwe. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Radio Capi. Ciao.